Bienvenue au Polysécur épisode technique. Je suis accompagné de Gabriel.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui, ça va bien. Ça va bien, toi aussi?
Très bien, merci. Aujourd'hui, on va continuer dans la série qu'on avait déjà commencé, c'est-à-dire, là, on avait parlé de l'accès conditionnel. Là, on va basculer sur PIM, qui est une autre pièce fondamentale au niveau de la sécurité dans M365 et Azure. Donc, je vais te laisser avec la démo. Pour les gens, là, encore la même chose. Il y a la version YouTube. Si vous voulez la voir avec le visuel, on va essayer de le décrire un peu, mais c'est toujours mieux de voir avec l'appui visuel.
Merveilleux. Et oui, comme Nicolas Loïc l'a dit, on poursuit selon ce qu'on avait mentionné, donc au niveau de première couche de sécurité. Donc, on parle toujours au niveau de l'identité et des accès dans la plateforme. Et on est encore au niveau de notre colonne vertébrale de tous les services Microsoft 365, donc dans Azure, au niveau des accès dans Azure. Et oui, PIM aujourd'hui. PIM, qu'est-ce que c'est? C'est ça ici. Le petit icône mauve avec la clé qui s'appelle Azure AD Privileged Identity Management. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Concrètement, Azure AD Privileged Identity Management, c'est une solution qui est bien simple, mais qui permet quand même plusieurs options de personnalisation pour faire du just-in-time access. Quand on parle de just-in-time access, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un service qui va permettre d'activer des permissions, des accès dans l'environnement seulement qu'au moment où on a besoin de les utiliser. Donc, pour donner un exemple concret, quelqu'un qui a besoin de faire certaines opérations d'administration dans l'environnement et pas d'une façon quotidienne, par exemple, dans le contexte de son travail, si par exemple il a besoin d'aller faire un contrôle X dans l'environnement avec certains accès d'administration, une fois par semaine, bien à ce moment-là, on peut utiliser ce type de solution-là pour lui octroyer les droits dont il a besoin pour qu'il puisse seulement aller activer ces permissions-là au moment où il va devoir le faire afin que son compte n'ait pas en permanence ces accès-là et que ça vienne, dans le fond, mitiger le risque de faire des mauvaises opérations avec ces droits-là. S'ils sont désactivés, bien tu peux pas te tromper en modifiant une configuration avec des accès élevés par erreur. Et aussi pour diminuer le risque si jamais il y a une compromission de l'identité. Étant donné qu'on peut aller ajouter certains contrôles sur l'activation, comme qu'on va le voir aujourd'hui. Donc, Privilege Identity Management, comme Nicolas l'a mentionné, on va souvent appeler ça PIM, Azure PIM, pour faire ce cours. Et vous pouvez voir ici l'interface de la solution. C'est pas sorcier. Le plus complexe là-dedans, probablement que ça va être d'aller déterminer dans le contexte de votre organisation qu'est-ce qui a le plus de sens, étant donné qu'il y a certains aspects de personnalisation, comme je l'ai mentionné, qui peuvent se faire. Ça va permettre d'aller gérer autant les rôles dans Azure AD que des droits au niveau des ressources dans Azure. Donc, on parle de droits, par exemple, owner ou contributor ou peu importe, au niveau de certaines ressources comme des machines virtuelles dans Azure, on va pouvoir aller les gérer de cette façon-là aussi. Donc, quand on est un utilisateur qui doit aller activer ses accès, on va passer par la section Tasks ici où on peut aller voir quels sont mes rôles, quelles sont les requêtes effectuées, etc. Mais dans le contexte où on souhaite mettre en place et configurer la solution, on va passer plutôt par la section Manage ici à gauche. Donc, pour les besoins de la cause aujourd'hui, ce que je vous propose, moi, c'est qu'on commence en allant se créer, par exemple, un nouvel utilisateur qui va avoir à faire seulement certaines activités, par exemple, d'administration des utilisateurs dans l'environnement, par exemple. Donc là, je suis connecté dans mon environnement de démonstration avec un compte qui est administrateur général. Et inquiétez-vous pas, ce n'est pas des vrais utilisateurs, c'est un environnement de démo. Donc, essayez pas de faire quoi que ce soit avec ça. Et je vais aller me créer un nouvel utilisateur qu'on pourrait appeler, par exemple, cette adresse IP ici. mettons, Jason, j'ai pas pensé à de nom en Jason Tremblay. T'in. Ceci est un nom fictif et non un membre de ma famille. Et je vais aller créer son mot de passe, par exemple. Et je vais seulement lui laisser les rôles comme qu'il y a en ce moment. Donc, on a Jason Tremblay qui est supposé d'être maintenant dans l'environnement. Et voilà. Et M. Tremblay, disons qu'on va aller lui octroyer, comme je l'ai mentionné, dans Azure AD Roles ici, dans la section Manage de PIM, le rôle User Administrator. Donc, ce qu'on va aller faire pour faire ça, c'est qu'on va aller directement au niveau des rôles. C'est la façon que je trouve qui est la plus simple d'aller le faire. Puis, on va rechercher pour le rôle qui nous intéresse. Donc, dans ce cas-ci, User Administrator. Et vous pouvez voir ici qu'il y a trois onglets. Okay? On a Eligible Assignments, Active Assignments, Expired Assignments. Active Assignments, c'est là que vous allez être en mesure de voir quel utilisateur dans l'environnement a ces droits-là d'actifs présentement. Et vous allez être en mesure de constater aussi s'il y a des utilisateurs, par exemple, qui ont, comme mon compte actuel, qui est administrateur général. D'ailleurs, je pourrais aller vous le montrer. Là. Global Admin. Si on va regarder Global Administrator, vous voyez que mes accès sont actuellement actifs de Global Admin. Vous voyez que c'est un accès qui est permanent et je n'ai pas de start time ou peu importe parce que c'est un accès qui m'est donné directement. Donc, je ne passe pas par PIM pour aller activer ces accès-là en ce moment. Là, c'est un peu mêlant parce que je l'ai mis ici. Eligible, mais concrètement, normalement, ce que vous allez voir, là, quand quelqu'un a seulement le rôle et n'est pas mis dans PIM pour avoir le rôle en éligible, vous allez le voir dans l'onglet « Active Assignments ». Il y a Breakglass aussi parce que c'est une bonne pratique d'avoir un compte, minimalement un compte de Breakglass dans l'environnement. Et donc, si on retourne ici à notre User Admin, ce qu'on va vouloir faire, c'est de l'ajouter au niveau éligible. Et on va aller sélectionner Jason ici. Jason Tremblay. Et on va simplement faire un next là-dessus, puis ça va nous demander certaines précisions ici. Donc, comme je l'ai mentionné, le type d'assignment qu'on peut faire pour l'utilisateur, c'est soit en éligible ou en actif. Si je le mettais actif, comme je l'ai mentionné, ça ferait simplement faire en sorte que dès que cet utilisateur-là se connecte à l'environnement, il va toujours avoir User Administrator d'actif. Il n'aura pas besoin d'aller l'activer. Donc, c'est pas ça qu'on veut ici. On veut lui mettre en éligible afin qu'il puisse l'activer, mais que ce soit pas toujours activé quand il se connecte à l'environnement. Et ici, on a l'option de faire en sorte que cet accès-là ou ce rôle-là ne soit pas activable ad vitam aeternam. Donc, si, par exemple, vous avez un utilisateur qui a besoin de faire certaines opérations pendant une durée précise de temps, vous pouvez aller spécifier un début et une fin de cette assignation-là pour faire en sorte que dès que la date de fin arrive, l'utilisateur perde automatiquement les droits d'activer ce rôle-là. Donc là, Dans ce contexte-ci, on va le laisser en permanent pour qu'il puisse simplement activer User Administrator toute sa vie. Et vous voyez tout de suite que Jason Tremblay est là. Maintenant, si je m'ouvre une fenêtre incognito, par exemple, un petit raccourci de clavier de trop, et on va se connecter avec Jason. Vous pouvez voir ici, quand on clique dessus, là, il y a les informations spécifiques relatives à l'utilisateur ici, donc un peu plus de détails. Aller chercher son information d'identification. Ah, je l'avais dans l'autre onglet. Plus rapide ici. Et voilà. Donc là, ce que je fais, c'est que je me connecte avec l'identité de Jason dans une fenêtre incognito pour pas qu'il y ait de... Oups. De confusion là, entre mes sessions. Puis ça va me demander plus d'informations parce que j'ai demandé le MFA dans mon environnement de démonstration. On va juste mettre ça en place rapidement. Avec Microsoft Authenticator.
C'est un rappel que c'est très important à déployer tout le temps le MFA. C'est la première mesure de défense contre la faiblesse du mot de passe. Ce n'est pas parfait, mais quand même, c'est essentiel pour protéger les actifs infonuagiques.
Exactement. Et voilà. Étant donné que c'est un nouvel utilisateur, on change le passe.
Il y a vraiment beaucoup de bonnes mesures de sécurité dans ce tenant de démo-là.
Merci. Ouais, j'ai essayé de faire... J'ai monté ce tenant-là hier, puis j'ai essayé de mettre rapidement là, un peu le baseline qu'on recommande habituellement au niveau de KPMG pour les tenants de nos clients, pour que ça aille une expérience un peu similaire à ce que les gens vont avoir habituellement. Donc là, c'est ça. On est dans le compte de Jason Tremblay. Et Jason, en ce moment, il ne pourra pas aller, par exemple, créer d'utilisateur. Donc, si je monte dans Azure Active Directory, c'est ce que ça fait, là, un User Administrator. Ça a les capacités d'aller créer des utilisateurs dans l'environnement, etc. Donc là, Jason va essayer de créer un utilisateur. J'ai pas aucune option. Ça fonctionne pas. Maintenant, je peux juste taper PM ici en haut. Ça va me permettre de trouver le service directement. Et maintenant, étant donné que je suis pas en train de configurer le service, mais que je suis plutôt en train de le consommer, je m'en vais dans la section Task ici, à gauche, dans My Roles. Et dans My Roles, je vais être en mesure de voir tous les rôles que je peux activer. Donc, évidemment, dans la section Éligible, vous voyez User Administrator. Et juste pour vous faire un peu ce que je disais tout à l'heure, là, si on va dans Active ici, il n'y a rien. Donc, il n'y a aucun accès qui sont actifs en ce moment pour Jason Tremblay. Il peut sensiblement rien faire dans l'environnement, étant donné qu'il n'y a pas de rôle. Maintenant, je peux aller activer User Administrator. Et là, vous voyez par défaut, puis ça encore là, on peut modifier tout ça au niveau du paramétrage de chacun des rôles. Mais par défaut, tous les rôles sont configurés de cette façon-là. C'est-à-dire que on peut aller personnaliser le moment où on souhaite que l'activation se fasse et on peut aller activer le rôle jusqu'à une durée de 8 heures. Donc, dans 8 heures, si j'active maintenant le rôle User Administrator, le rôle va se désactiver. Donc, pour les besoins de la cause, là, aujourd'hui, je vais le mettre 2 heures. Ça devrait pas durer plus que 2 heures, ce podcast-là. Puis, on met par défaut une justification. Donc, test de création utilisateur, par exemple. Je vais activer. Et là, ici, vous pouvez témoigner du processus incroyable d'activation de rôle.
Parfois pas très rapide.
Parfois pas. Ouais, c'est ça. C'est du temps. Ça dit refresh in 5 seconds, mais c'est 5 secondes cloud.
Ouais, c'est ça. C'est comme les secondes de copie de fichier de Microsoft. Là. C'était jamais prévisible, mais c'est toujours un certain délai avant d'appliquer. Là. C'est tout dépendant, j'imagine, de la charge en arrière en back-end qu'il fait, mais de mon expérience, c'est jamais. C'est une boîte à surprise.
Exactement. Donc maintenant, les accès devraient être actifs. Je dis devrait parce que ça m'est arrivé dans le passé d'avoir à me déconnecter puis me reconnecter pour que ça fonctionne. Le refresh n'avait pas fonctionné. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver parfois. Là. Soyez pas trop confus des fois dans les mystères du cloud.
Plutôt souvent que rarement, là, dans mon expérience, certains rôles sont plus rapides d'activation. Mais quand on va jouer avec des rôles comme Global Admin, par exemple, pour une raison obscure, il peut être très long avant de s'activer pour de vrai si on ne redémarre pas le navigateur ou on ne se rebranche pas au complet. Là.
Donc, en effet.
Comme un manque de rafraîchissement du cookie qui permet ça.
Mais, exact.
Une fois qu'on sait, on fait avec.
En effet, c'est ça. C'est juste de pas penser que ça fonctionne pas, mais plutôt de continuer à. Ben en fait, c'est simplement de se déconnecter, de fermer le navigateur, puis de réouvrir, puis se reconnecter, là, qui va d'habitude régler le problème. Donc là, ici, on va voir. Roulement de tambour. Hey, hey! Ça a fonctionné. Donc, j'ai pas besoin nécessairement de créer un autre compte, là, mais c'est simplement pour vous montrer que maintenant, les accès fonctionnent pour Jason Tremblay. Il va être en mesure d'aller faire son travail pour... là, je l'ai activé pendant 2 heures de temps. Donc, à 3h26, au moment de l'enregistrement actuel, les accès de Jason Tremblay seront désactivés. Si je retourne ici. OK. Donc, voilà. Si on retourne dans PIM, je suis de retour dans mon compte Global Admin. Je vais vous montrer juste la dernière étape de ce qu'on a dit tantôt. Là, au niveau de l'onglet actif, vous allez le voir maintenant. Là. Vous voyez que Jason Tremblay était seulement éligible ici. Puis maintenant qu'il a activé ses accès, on le voit dans actif. Puis on voit que là, il y a un end time qui va se terminer à 3h24, tandis qu'au niveau éligible, end time permanent. Donc, vous voyez, vous êtes en mesure de voir dans chaque onglet là, à quel moment ça a commencé puis à quel moment ça va se terminer. Donc, étant donné que j'ai mis 2 heures pour tout ce qui est du rôle actif, ça se termine, comme on l'a dit, à 3h24. Puis au niveau éligible, c'est permanent, étant donné qu'il va pouvoir l'activer, comme on l'a mis permanent, n'importe quand. Maintenant. J'ai mentionné qu'il y avait de la personnalisation qu'on peut faire. Donc, si on reprend, par exemple, ce rôle-là de User Administrator, il y a les assignations ici qu'on peut faire, mais il y a aussi moyen d'aller dans Settings ici. Il y a le bouton Settings qui nous permet d'aller modifier le comportement par rapport à l'activation du rôle. Donc, le premier ici, ça fait en sorte qu'on a toutes sortes de questions à se poser pour les différents rôles qu'on utilise. Ça peut devenir un petit peu fastidieux là, dans le sens que quand on regarde les rôles dans Azure AD, excusez-moi, quand on regarde les rôles dans Azure AD, il y en a quand même une bonne poignée. Mais j'ose croire que vous n'utilisez pas tous ces rôles-là dans le contexte de votre organisation. Si oui, faites-moi signe parce que j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais pour reprendre User Administrator. Donc, on se pose les questions. Combien de temps est-ce que je souhaite que ce rôle-là puisse être activable? Donc, Activation Maximum Duration. Ici, comme on l'a vu tantôt, ça vous permet de l'activer pour une durée de 8 heures maximale. On pourrait diminuer ça puis dire, moi, mon utilisateur, mes utilisateurs, je souhaite qu'ils puissent activer User Administrator seulement pour une période d'une heure, par exemple. C'est pour des rôles qui sont plus spécifiques dans votre environnement, puis que vous savez qu'il n'y a pas personne qui fait ça de sa journée, ça peut être une option pour diminuer l'exposition de ces accès.
Par expérience, c'est Global Admin qu'on va mettre sous ce chapeau réduit-là de capacité, puisque c'est le rôle le plus dangereux, le plus puissant, mais en même temps, ouais, le moins utilisé, ou on devrait le moins utilisé possible, puisque normalement, il y a des rôles plus petits qui permettent de faire les travaux quotidiens. Global Admin est utilisé que dans des cas plutôt rares, mais encore de plus en plus rares. Microsoft fait d'énormes efforts pour rendre l'usage de ce rôle-là le plus exceptionnel possible.
Oui, en effet. En effet, et puis c'est ça, on veut toujours minimiser la quantité d'administrateurs général dans l'environnement, évidemment, c'est un bon point. Puis en effet, là, comme on l'a vu avec la liste, il y a tellement de rôles différents que c'est, en règle générale, là, c'est souvent possible d'aller octroyer des rôles qui ont des accès moindres pour respecter le principe de least privilege plus facilement. Je sais pas si c'est la vérité, là, mais j'ai entendu dire que dans le tenant principal de Microsoft, il y avait une dizaine de Global Administrators, ce qui est quand même... Si Microsoft est capable d'avoir pas trop de Global Administrators dans leur tenant, tout le monde devrait être capable de le faire. Maintenant.
Ouais, absolument. Puis j'ai entendu la même rumeur que toi. Donc, je pense qu'on a des sources équivalentes. Mais oui, d'un point de vue mondial. Puis je pense que les 10 personnes sont réparties à travers le monde, justement, pour des cas obsessionnels. Mais ils ont quand même beaucoup d'employés. Fait qu'ils respectent la règle du. Je pense qu'il y a un pourcentage qui disent qu'on ne doit pas dépasser de Global Admin par rapport à notre population d'utilisateurs. Donc, ils respectent les règles de façon très, très sévère.
Oui, exactement. Exactement. Donc ici, c'est ça. Pour en revenir à notre configuration du rôle, on a la durée de 8 heures. On a ici, on exige une justification. Donc, il va être possible pour notamment les administrateurs généraux, mais il y a d'autres rôles qui peuvent le faire, là, qui peuvent aller regarder quelles sont les justifications. Puis éventuellement, ça peut être utilisé aussi. Vous voyez ici, là, approvers, puis require approval to activate. Je pourrais aller faire en sorte que ce rôle-là nécessite une approbation pour être activé. Donc, mon Jason Tremblay, pour pouvoir aller activer ses accès User Administrator à ce moment-là, devrait attendre qu'il y ait une approbation pour que son rôle soit activé. Et à ce moment-là, évidemment, la personne qui va approuver va typiquement aller regarder quelle est la justification qui a été énoncée pour ça. Donc, ça peut être aussi une question que vous vous posez, là, à savoir, est-ce que j'ai des accès tellement sensibles qui sont pas nécessaires trop souvent, qui nécessiteraient des approbations? Si oui, qui est-ce que je souhaite mettre en approbation là-dessus? Ensuite de ça, require ticket information and activation, ça c'est assez simple. Il s'agit simplement d'aller ajouter une identité de ticket pour tout système de ticketing que vous avez à l'interne dans votre organisation. On activation, require Azure MFA. C'est au moment où ce que l'utilisateur active le rôle, ça va lui demander son authentification multifacteur. Par défaut, il est à oui, comme vous pouvez le voir ici. S'il y a des rôles que vous n'avez pas nécessairement besoin de tout ça, c'est jamais vraiment recommandé de mettre ça à non. Il n'y a pas vraiment de situation où de mon vécu, c'était nécessaire. Ensuite de ça, au niveau des assignations, les paramètres d'assignation, on a Allow Permanent Eligible Assignment. Donc, est-ce qu'on permet que l'assignation éligible puisse être permanente ou est-ce qu'on veut systématiquement que ce soit temporaire pour une certaine période de temps? Ça ici, il y en a qui pourraient dire, ben ça peut être utile dans le contexte où je veux toujours pouvoir... réviser les accès de mes utilisateurs, par exemple. C'est déjà quelque chose que j'ai entendu, là, de quelqu'un qui dit, ben, on va mettre tout ça temporaire puis le réassigner seulement qu'aux personnes qui ont besoin d'avoir ces accès-là. Premièrement, bon, t'as un certain risque que les gens qui doivent faire les tâches associées à leur rôle soient pas en mesure de le faire s'il y a quelqu'un qui échappe la balle puis que les rôles ne soient pas assignés à nouveau. Donc, il y a ce risque-là qui est pas super. Et aussi, dans PIM, il y a une fonctionnalité de revue des accès qu'on va voir plus tard, qui est assez simple d'utilisation puis qui vous permet directement, à partir de PIM, d'aller faire la révision des accès des utilisateurs de façon assez conviviale. Donc, ce use case-là que je viens de mentionner n'est pas vraiment valide, selon moi. Donc, il y a moyen de configurer aussi l'expiration d'aller définir un time frame dans le béton ici. Là. Allow permanent active assignment. On peut aller indiquer que pour un certain rôle, on ne souhaite pas permettre d'activation permanente. Donc, de faire en sorte que le rôle systématiquement doive être assigné en éligible. Ici, require Azure Multi-Factor Authentication on Active Assignment. Ce que ça implique, c'est simplement que l'administrateur, lorsqu'il va aller octroyer un rôle à un utilisateur, ou plutôt ce rôle-là à un utilisateur, si on met ça à oui, ça va demander à l'administrateur de rentrer son authentification multifacteur pour pouvoir assigner un utilisateur à ce rôle-là. Donc, vous voyez qu'il y a des scénarios un peu niche, là, si vous voulez, là-dedans. Là, ça va quand même assez loin dans la granularité de ce qu'on peut configurer pour chacun des rôles. Donc, typiquement, c'est assez rare qu'on va creuser jusqu'à ce genre de choses-là. Mais encore là, pour les administrateurs globaux, ça peut être intéressant. Require justification on active assignment, c'est un peu le même principe, c'est que ça va exiger de mettre une justification pour une assignation active à un utilisateur sur ce rôle-là. Ensuite de ça, il y a tout l'aspect des notifications, puis je vais rentrer dans l'édition des settings pour vous montrer. Donc ça, c'est tout identique là, à ce qu'on vient de voir, là, dans le sens que c'est là qu'on va pouvoir aller paramétrer le maximum d'heures pour l'activation, est-ce qu'on a besoin du MFA, puis en passant, que j'y pense, là, au niveau du MFA, c'est bien spécifié ici Azure MFA parce que certaines organisations vont utiliser d'autres solutions d'authentification multifacteur. On peut penser, par exemple, au jeton RSA avec SecureID ou peu importe pour faire l'authentification dans Azure et dans les services Microsoft 365. Ça fonctionne bien en général, mais pour PIM en tant que tel, c'est spécifié que c'est Azure MFA. Et si vous avez seulement, par exemple, RSA pour votre MFA, ça ne va pas fonctionner là, pour faire l'activation d'un rôle utilisateur. Ce n'est pas supporté actuellement par Microsoft. Ça prend vraiment le MFA avec Azure. Donc ça, encore là, au niveau de l'onglet Assignment, c'est la même chose que vous avez vu juste avant. Maintenant, au niveau des notifications, pourquoi je voulais rentrer dans l'édition? C'était simplement pour vous permettre de voir concrètement qu'on est en mesure d'aller ajouter des adresses courriel ici pour les notifications. Donc, par défaut, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que on a des notifications quand un membre est assigné en tant qu'éligible pour le rôle User Administrator ici. Donc, les administrateurs généraux, puis les gens qui ont le rôle privileged administrator, ce genre de choses-là, vont être notifiés s'il y a une assignation qui est faite en mode éligible. Même chose pour en actif, c'est le même comportement par défaut. Même chose quand quelqu'un active le rôle. Donc, si vous avez des rôles encore là où ce que quelqu'un se connecte pas souvent dessus, ça peut être intéressant de voir, OK, là, il vient d'activer son rôle, puis ça peut nous lever un flag aussi si quelqu'un a besoin normalement juste d'activer ce rôle-là une fois ou deux semaines, puis que là, vous voyez que le rôle a été activé plusieurs fois dans la même semaine. On peut avoir certains indicateurs là, avec ça. Avec l'option d'ajouter une adresse courriel, il y a moyen, par exemple, si vous avez, comme c'est le cas pour plusieurs organisations, une boîte courriel qui reçoit différentes alertes pour le SOC, donc différentes alertes de sécurité, ça pourrait être une bonne idée d'ajouter cette adresse courriel-là ici. Typiquement, surtout pour des rôles comme justement Global Administrator, d'ajouter ce genre d'adresse courriel-là pour toute nouvelle assignation et même au niveau de l'activation, ça peut être intéressant d'ajouter cela. Pour diminuer le bruit que ça fait, on peut aller ajouter Critical Emails Only ici. Donc ça, c'est au niveau des paramètres du rôle. Puis vous voyez ici que il y a Role Settings à gauche, là. Il y a Settings en haut ici, puis ça amène aux mêmes paramètres. Donc, ils ont deux boutons pour la même chose. Pour les curieux qui voyaient le vidéo et qui se demandaient c'était quoi l'autre bouton, ça amène en même place. Donc, globalement, ça ressemble à ça pour le paramétrage des rôles. Donc, tu sais, pour quelqu'un, par exemple, les cas typiques qu'on va voir, c'est tout ce qui est Global Administrator, User Administrator, pour tout ce qui est administrateur SharePoint, Exchange, Teams, c'est les rôles qu'on va voir le plus souvent gérer là-dedans. Security Administrator aussi. Souvent aussi pour l'administration de la facturation. Billing Administrator ici. Tu sais, souvent, ça, c'est pas quelque chose qui est nécessaire de façon régulière, là, d'aller se connecter avec des droits pour la facturation dans le tenant, pour l'achat de licence, etc. Fait que justement, c'est un bon cas d'utilisation, ça, le Billing Administrator, pour aller mettre en place PIM dessus, en éligible seulement pour la personne qui va aller gérer les licences, par exemple. Maintenant, au niveau Access Reviews, juste pour vous montrer... okay. Ah, c'est vrai, tant qu'à frapper ça, ça me fait penser au fait que au niveau des licences, on n'en a pas parlé. Ça, c'était un petit bug bizarre. Hein?
ça a permis justement de démontrer que c'est pas à tous les niveaux de licence qu'on a accès à tous les composants. Là.
Exactement. Pourtant, j'ai le bon niveau ici, puis il a fait le refresh a fait le travail, mais en effet, c'est ça. Pour pouvoir utiliser PIM. Ça nécessite d'avoir au moins Azure AD Premium 2 ou EMS E5 et tout ce qui englobe tout ça. Là. Donc, si vous avez Microsoft 365 E5, ça fait le travail aussi, etc. Mais bref, minimalement, Azure AD Premium 2, si vous souhaitez utiliser ce service-là, c'est la licence la plus basse qui vous octroie l'accès à ça. Donc, ici, au niveau Access Review, c'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure. C'est la fonctionnalité qui va nous permettre d'aller faire une révision des accès de mes utilisateurs. Donc, si je fais une nouvelle Access Review, par exemple, je vais appeler ça test ici. On indique la date de début de la révision des accès. Puis, on peut même aller paramétrer tout ça pour faire en sorte que ce soit fait de façon régulière. Donc, on peut aller indiquer une fréquence mensuel, peu importe ici, de notre révision des accès. Donc, c'est souvent quelque chose dans les organisations qu'on peut avoir tendance à oublier là, de faire une révision des accès. Donc, si on vient paramétrer une fréquence ici, ça peut aider. C'est sûr que malheureusement, étant donné qu'on parle de PIM dans Azure, ça s'applique seulement qu'au rôle Azure AD. Donc, c'est pas une solution miracle qui va vous permettre de vous laver les mains de vos révisions des accès dans le contexte de l'ensemble de votre organisation, à moins que tout soit dans Azure de votre côté.
Oui, puis ça touche, je pense, juste les rôles, ça touche pas l'ensemble. Fait que c'est quand même une portée très limitée, mais quand même, c'est comme pour les gens qui n'ont pas de GIA robuste dans leur organisation, ça donne quand même un bel accès à réviser les accès privilégiés qui, normalement, ne devraient pas être laissés moisir sans plus de surveillance que ça. Là.
Exactement. Exactement, c'est ça. Pour les rôles pour lesquels ça s'applique, moi, en tout cas, je trouve que c'est quand même pratique. Donc ici, on a, comme je l'ai mentionné, la date de début, on a une date de fin. Donc, on va aller spécifier quelle est la période de temps durant laquelle on souhaite que cette révision des accès-là ait lieu. Le scope, donc, on peut aller indiquer tous les utilisateurs ou service principals. Inactive users, on tenant level only, on peut aller indiquer est-ce qu'on veut que ça s'applique seulement sur les utilisateurs qui sont inactifs. On peut aller spécifier le nombre de jours d'inactivité. Donc, mettons ici, on veut que ça englobe tout le monde. On va aller simplement mettre ça à false. Et là, on peut sélectionner quels sont les rôles pour lesquels je souhaite faire une révision des accès. Donc, mettons que mon JSON, il n'y a plus besoin de son user admin. On va aller scoper ça ici. Puis on peut aller filtrer notre règle aussi en fonction des types d'assignation. Donc, on peut aller indiquer « Je souhaite faire une révision des accès pour le rôle User Administrator seulement pour les gens qui l'ont en actif ou seulement en éligible ou tout ça. » Mettons que je vais le mettre à « All Active and Eligible Assignments » pour englober l'ensemble des utilisateurs qui ont ce rôle-là. Et là, je peux aller sélectionner j'oublie le terme français, des reviewers, des gens qui vont faire la révision. Donc, je peux aller indiquer members ou managers ou sélectionner des réviseurs spécifiques. Donc, mettons, je vais le mettre à moi-même, étant donné que mon tenant est géré par juste moi. Et là, on a d'autres options ici. Upon completion settings, une fois que c'est complété, est-ce qu'on souhaite que les résultats s'appliquent automatiquement au niveau de la ressource? Qu'est-ce qui se passe si mon réviseur ne répond pas? Est-ce que je change rien? Est-ce que j'approuve l'accès? Est-ce que je retire l'accès? Ou est-ce que je prends les recommandations? Donc, il y a toutes ces options-là. Et on peut aussi envoyer une notification à la fin de la révision avec l'option ici à un utilisateur. Et encore là, on a d'autres options de paramétrage avancé. Par exemple, de montrer des recommandations. Donc, c'est ça. Il y a des recommandations du système là, directement qui vont s'afficher par rapport à tout ça. Puis, on peut aller nécessiter une raison. Donc, l'utilisateur, par exemple, a besoin systématiquement de nous fournir une raison pour laquelle il a besoin de son rôle pour qu'on puisse l'approuver. Parce que concrètement, ce que ça va faire, ça, une fois qu'on l'envoie, là, c'est que ça va envoyer par courriel à mon utilisateur, ça va lui indiquer qu'il y a une révision des accès qui a lieu concernant son rôle. Puis là, ça va demander à mon utilisateur dans le courriel, est-ce que tu as besoin ou tu n'as plus besoin de ce rôle-là? Là, s'il dit, j'en ai plus de besoin, mais c'est pas compliqué, ça va lui retirer automatiquement ses accès. Mais si il mentionne qu'il en a toujours le besoin, mais ça va lui demander une raison, une justification. Pourquoi est-ce que tu as toujours besoin de ça? Et là, on va pouvoir approuver ou ne pas approuver en fonction de ce que l'utilisateur a mentionné. Des reminders, ça, c'est pour envoyer un rappel là, comme quoi que ça doit être fait, parce que si l'utilisateur ne fait rien après le délai de temps qui est indiqué, ben typiquement ça va lui retirer ses accès. Donc j'ai fait un start ici. Et là, mon ami Jason n'a pas de boîte courriel parce que je n'ai pas octroyé de licence. Il ne recevra pas. Je ne pourrais pas vous montrer le courriel en tant que tel. Mais bref, tout ça pour dire que c'est un outil assez simple d'utilisation pour vous permettre de faire les révisions des accès pour votre organisation. Donc, encore une fois, ici, les Access Review Settings, là, c'est un peu la même idée que les paramètres avancés quand on va aller activer une révision des accès. C'est les paramètres par défaut, dans le fond. Là. Là, juste pour vous montrer le reste des éléments dans Manage, au niveau des assignations, on est capable de voir, bon, là, étant donné que j'en ai juste un, il y a juste Jason Tremblay qui apparaît ici, là, mais ici, vous voyez User Administrator, Jason Tremblay au niveau de mes assignations. Ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble de quels sont les rôles pour lesquels j'ai des assignations et qui est dedans, qu'est-ce qui est actif en ce moment dans mon environnement. Autre point qui peut être pratique aussi, que je vous ai pas montré jusqu'à maintenant, dans la section Manage Roles, on est capable de voir rapidement au niveau des colonnes ici. On peut filtrer par colonne puis voir pour quel rôle est-ce que j'ai des gens qui sont en éligible, en actif. Donc, vous voyez ici, User Admin, j'ai Jason qui est actif, donc qui est à 1. Si ses accès étaient désactivés en ce moment, ce serait à 0 au niveau actif puis 1 au niveau éligible. Donc, on peut voir rapidement qu'est-ce qui est utilisé dans le contexte de l'organisation. Donc, Global Admin, on a 2 actifs ici. Point à savoir aussi par rapport au Global Administrator, peut-être que je vais te l'apprendre, Nicolas, je ne sais pas si tu étais au courant, mais les courriels que les Global Administrators, habituellement, ils vont recevoir énormément de notifications et d'alertes dans leur boîte courriel. Te donner un exemple, s'il y a un voyage impossible puis qu'on a Azure Identity Protection d'activer, ben ton Global Administrator, habituellement, dans sa boîte courriel, va recevoir une alerte comme quoi il y a eu une alerte de voyage impossible dans l'environnement. Sauf que si ton Global Administrator est en éligible et que son rôle n'est pas actif, il ne va pas recevoir la notification. Il ne recevra pas le courriel.
Celle-là, je la savais et je la trouve très frustrante d'ailleurs, ce petit glitch-là de fonctionnement. Ça veut dire qu'il faut que. Puis il y a des délais de mémoire. Je pense qu'il te laisse 2-3 jours suivant une activation. Puis ensuite, il t'enlève des courriels. Mais il faudrait que essentiellement tu actives ton rôle quasiment tous les jours pour avoir accès à toutes les alertes par défaut. Et c'est difficile de les trouver, puis c'est vraiment à beaucoup d'endroits différents configurer des alertes par défaut dans M365. Fait que c'est un mauvais, en tout cas. Puis il faut même aller signer une licence Exchange. Parce que bref, il y a comme un glitch de mon point de vue au niveau de Microsoft sur cette façon d'opérer-là avec le Global Admin, que je mériterais peut-être un petit raffinement. Puis ça simplifierait probablement la vie de beaucoup de gens.
Oui, exactement. Tu sais, des solutions que j'ai vues aussi, c'est pour recevoir au moins les alertes relatives à la sécurité. J'ai des gens qui vont se mettre en éligible sur Global Admin puis qui vont se mettre en actif permanent Security Reader. Security Reader aussi pour recevoir les notifications par courriel. C'est le genre de choses que j'ai vues, là. Mais en effet, là, c'est problématique souvent. Ça, puis le fait que aussi au niveau des recommandations, habituellement, ce qu'on va recommander, c'est que le Global Administrator, il y a des gens pour lesquels ils ne mettent pas de boîte courriel à leur Global Administrator. Moi, ce que je recommande habituellement, c'est d'avoir une boîte courriel pour être en mesure de recevoir les notifications, mais étant donné que c'est souvent c'est un compte à part, le Global Administrator, versus le compte utilisateur standard que la personne va utiliser pour ses activités du quotidien, de faire une redirection des courriels qui sont envoyés dans la boîte du Global Admin vers la boîte de l'utilisateur standard pour qu'il soit notifié instantanément là, si jamais il y a quelque chose d'urgent. Bref, on sort un peu du contexte de PIM, là, mais des petits enjeux comme ça par rapport au compte d'administrateur général. Ça pour dire que ici, au niveau des rôles, on est capable de voir facilement qu'est-ce qui est actif, qu'est-ce qui est éligible. Donc, c'était un petit peu ça l'idée. Et on peut voir facilement dans la section Settings, toujours dans la section Manage, j'essaie d'essayer un petit peu expliquer pour ceux qui ne voient pas la vidéo. Là, mais à gauche, il y a Manage, puis là-dedans, on a Settings pour les paramètres globaux de PIM, et on est en mesure de voir quels sont les rôles qui ont été modifiés, dont les rôles Azure AD, est-ce que j'en ai qui ont été modifiés, et si oui, quand est-ce que ça a été mis à jour et par qui. Donc, étant donné que j'ai pas rien modifié au niveau de mon User Administrator tantôt dans son paramétrage, on voit pas rien ici, mais bref, ça peut vous donner une idée aussi de quels sont les rôles pour lesquels on a été changé le comportement par défaut. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Solution très utile que je recommande pas mal systématiquement à travers les clients que je peux avoir, étant donné que c'est simple d'utilisation et que ça amène une autre belle couche de sécurité sur l'identité.
Ouais, ça protège adéquatement justement les comptes à privilèges qui peuvent être à risque. Puis ça ramène, tout dépendant de la grosseur de l'entreprise ou de l'organisme public, la séparation, tu mentionnais, tout dépendant, il y en a beaucoup, mais tout dépendant des places, seulement par rôle, ils vont se séparer par direction, par éléments comme ça dans lesquels on va les voir aller. C'est important, puis justement, ça évite des erreurs humaines aussi parce qu'il faut quand même faire une action positive pour activer son rôle. Donc, on ne peut pas genre se brancher par hasard puis que ça a été linké sur notre compte bureautique puis commencer à poser des gestes d'administration sans faire exprès parce que ça nous est tous arrivé un jour ou un autre d'être un peu distrait puis de brancher avec le mauvais compte puis de briser des choses ou des modifications. Donc, ça préserve de l'erreur humaine et ça préserve aussi contre des attaquants qu'une fois qu'ils rentrent, ben on va avoir un peu plus de difficultés, surtout s'il y a du MFA qui est demandé et ainsi de suite. Ça rend ça beaucoup plus difficile. Je te remercie, c'est un très beau tour d'horizon. J'espère que ça va avoir plu aussi aux gens. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que ça m'a rappelé un peu qu'est-ce que c'était. Donc, on se dit à la prochaine justement pour un prochain segment de ce type-là.
Super, hein, un gros merci.